L'heure d'un nouveau journal avec Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. C'est un combat des partisans de la démocratie contre une dérive encore plus autoritaire du pouvoir. C'est ainsi en tout cas que l'analysent les observateurs de la situation au Venezuela. L'opposition a appelé depuis hier à une grève générale de 48 heures avant un grand défilé demain. Elle proteste contre l'intention du président Maduro de renforcer ses pouvoirs et de mettre en place un régime dictatorial via une assemblée constituante qui doit être élue ce dimanche. Une majorité de Vénézuéliens seraient opposés à cette élection. L'analyse à ce sujet de Nathalie Brandler, membre du groupe politique d'études sur l'Amérique latine, elle est interrogée par Nabila Hamel.
Ce qui est en jeu au Venezuela, c'est la transformation du Venezuela avec cette Assemblée nationale constituante que veut faire le président Maduro. C'est transformer le Venezuela dans une dictature contrôlée par les militaires, par le régime. Donc pour l'opposition, c'est une question de vraiment de lutter. Et ce n'est pas du tout comme si c'était un problème de gauche et de droite. Et ce n'est pas non plus un problème d'opposition contre Maduro. C'est vraiment un problème de dictature et démocratie. C'est vraiment cela qui est en jeu. En fait, en 2015, l'Assemblée nationale a été élue majoritairement gagnée par l'opposition. Tout de suite après, le gouvernement a commencé à éroder le pouvoir de l'Assemblée nationale au point qu'il a enlevé le salaire, il a décrété que les députés ne pouvaient être arrêtés et il a complètement enlevé aucune validité des décisions de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est vraiment une transformation du pays qui veut être faite par Maduro. On est clair pourtant que finalement, à un moment donné, il faudrait arriver à une négociation parce que sinon, il y a ou la négociation ou la guerre. Et c'est pour ça que l'opposition n'arrête pas de faire pression de différentes façons.
Nathalie Brandler, membre du groupe politique d'études sur l'Amérique latine. La Commission européenne hausse le ton vis-à-vis de la Pologne. Elle annonce avoir engagé hier une procédure d'infraction à l'encontre de Varsovie pour non-respect du droit de l'Union, en réaction à une loi sur les tribunaux de droit commun promulguée la veille par le président polonais Duda. Dès que cette loi sera publiée, la Pologne devrait recevoir une loi, une mise en demeure. Parmi les sanctions envisagée par Bruxelles, l'interdiction pour la Pologne d'exercer son droit de vote dans l'Union. Autre sanction votée, celle-là par le Congrès américain à l'égard de la Russie, mais des sanctions qui commencent à inquiéter l'Europe. Les parlementaires américains menacent toute entreprise travaillant avec le secteur de l'énergie russe de subir les foudres américaines. Or, de grosses entreprises allemandes et françaises travaillent avec la Russie dans le secteur gazier, notamment. Un texte tout de même adopté à une très large majorité par la Chambre des représentants qui doit maintenant être promulgué par Donald Trump. Or, ce dernier, qui souhaite normaliser les relations avec Moscou, n'y est pas favorable, mais il est très isolé sur cette question. En Ukraine, c'est une décision du président ukrainien qui n'a rien de très démocratique. Petro Poroshenko vient de déchoir de sa nationalité l'ancien président géorgien Mikhaïl Saakachvili. Il y a 2 ans, Petro Poroshenko l'avait pourtant fait gouverneur d'Odessa et lui avait accordé un passeport ukrainien, mais les deux hommes sont brouillés depuis sur fond de corruption au sommet de l'État. Mikhaïl Saakachvili est passé dans l'opposition. Il a même créé sa propre formation politique pour se débarrasser de ce rival devenu gênant. Petro Poroshenko a donc recours à cette manœuvre, la déchéance de nationalité. Les explications à Kiev de Stéphane Sioua.
L'ancien président géorgien séjournait aux États-Unis lorsqu'il a appris sur Facebook que le service des migrations ukrainien lui retirait sa nationalité ukrainienne alors qu'il s'apprêtait à rentrer à Kiev à la fin de la semaine. Embauché par Poroshenko en 2015, Saakachvili était devenu ukrainien et en parallèle, poursuivi par la justice géorgienne, il avait perdu la nationalité de son pays natal. Joint cette nuit au téléphone, il nous a confirmé cette situation unique en son genre, celle d'un ancien chef d'État, désormais apatride, qui va peut-être devoir demander l'asile politique aux États-Unis, même s'il nous a affirmé qu'il souhaite revenir en Ukraine dès que possible dans l'arène politique. Car pour Petro Poroshenko, la campagne des présidentielles de 2019 a déjà commencé, et le président actuel semble décidé à éliminer ses adversaires, quels qu'en soient les moyens. Le schéma est simple, Poroshenko est un président oligarque dont la popularité s'est effondrée, tandis que Saakachvili est un réformiste populiste, une des personnalités préférées des Ukrainiens. Sauf qu'en poussant un rival à l'exil, le président ukrainien renoue avec des pratiques autoritaires qui vont faire très mal à l'image du pays sur la scène internationale.
Stéphane Sio, en France, Cédric Héroux, à nouveau mis en examen, l'agriculteur du sud-est de la France qui s'était fait connaître pour avoir hébergé et aidé à l'hébergement de personnes migrantes, avait été interpellé lundi à la gare de Cannes en compagnie de 153 migrants. À Nice, les précisions de Laurent Vareille.
Cédric Héroux a donc été mis en examen pour aide à l'entrée et à la circulation irrégulière d'étrangers en France. Mais le juge a également ouvert une information judiciaire, ce qui signifie qu'il veut vérifier beaucoup de choses et notamment si Cédric Héroux accueille dignement chez lui les dizaines de migrants qui se succèdent dans son jardin. La mise en examen n'est pas une bonne nouvelle pour l'avocat du paysan de la Roya, au contraire de cette information judiciaire, qui va permettre, explique Maître Ouloumi, d'enquêter précisément sur les faits, sur ce qui se passe dans la vallée et sur le rôle qui joue Cédric Héroux. L'avocat espère également que cette enquête permettra d'entendre des personnes clés qui n'ont jamais répondu à la justice, le préfet des Alpes-Maritimes, le directeur de la police de l'air et des frontières et le procureur de la République de Nice. Nous aurons enfin accès au dossier, à toutes les pièces, et ça aussi c'est positif, conclut-il. Cédric Héroux est ressorti libre du tribunal, mais a été placé sous contrôle judiciaire.
C'est un fleuron de l'industrie française et l'enjeu d'une bataille entre l'État français et l'État italien. Les chantiers STX de Saint-Nazaire avec aujourd'hui la fin d'un ultimatum lancé par le ministre de l'économie français aux Italiens. Les chantiers nazériens doivent être rachetés par le groupe italien Fincantieri, mais la France ne souhaite pas que ces mêmes Italiens en prennent le contrôle total. C'est donc 50-50 ou la nationalisation par la France, a menacé hier Bruno Le Maire. Aujourd'hui, une réunion entre les ministres des Affaires européennes des deux pays permettra peut-être d'apaiser la situation. À Rome, Mathilde Imberti.
Les Italiens ne voient aucune raison de céder à Paris. L'accord qui avait été convenu sous le gouvernement français précédent leur garantissait une prise de contrôle des chantiers de Saint-Nazaire. Deux mois plus tard, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, menace de nationaliser les chantiers si les amis italiens, c'est son expression, refusent son offre d'un plan d'actionnariat à 50-50. « Nous n'avons pas l'intention de nous laisser intimider », répond-on de ce côté-ci des Alpes. Le patron des chantiers de Trieste, Giuseppe Bono, qui est le seul candidat repreneur des chantiers de Saint-Nazaire, assure d'ailleurs que Fincantieri peut très bien se passer de STX. Côté politique, le secrétaire d'État aux affaires européennes, Sandro Gozzi, parle d'une position italienne très claire et espère que Paris saura dépasser les malentendus sur ce dossier des chantiers. Sur d'autres aussi, car l'amitié franco-italienne est mise à rude épreuve ces temps-ci. Mardi, Emmanuel Macron organisait la réunion de la Selle Saint-Cloud sur la Libye, sans convier l'Italie, qui est pourtant en première ligne dans le bourbier libyen. Quant au sort des migrants, la France refuse d'ouvrir ses ports quand l'Italie assure en continu des débarquements sur ses côtes.
Mathilde Imberti, le temps de ce jeudi, toujours des nuages ce matin dans le nord et le nord-ouest, mais les éclaircies vont arriver cet après-midi. Le sud-est sera sous le soleil et le vent, retour du soleil également du sud de l'Aquitaine aux Alpes. Ailleurs, le ciel restera chargé du côté des températures. Comptez de 11 à 18 degrés ce matin, avec des pointes à 22 cet après-midi sur la moitié nord et à 35 sur la moitié sud. Ces journaux ont été préparés par Emmanuel Faucillon et François-Charles Domergue. Prochain journal à 12h30 avec Camille Magnard. D'ici là, excellente matinée sur France Culture.